Alors, il y a quelques questions à vous poser. Dans la Somme théologique, saint Thomas précise le lien qui existe entre les missions des personnes divines et la grâce sanctifiante, en montrant que ces missions, cette présence en nous des personnes divines, est selon la grâce sanctifiante. N'a-t-on pas là une piste pour développer ce qui caractérise la grâce chrétienne ? En ce sens que la grâce n'est jamais en soi, mais toujours selon cet envoi en nous du Fils et de l'Esprit Saint.
Oui. Et la grâce chrétienne, la grâce, je dirais, c'est le propre de la grâce. C'est pas le propre de la grâce chrétienne. En justice originelle, ils auraient tous vécu d'une façon plus intense encore de la présence des trois personnes divines. La très sainte Trinité n'est pas liée à la grâce chrétienne. Et le mystère de la très sainte Trinité, c'est le mystère de la grâce, tout court. Parce que Dieu est éternellement trine. Il n'est pas trine à partir du péché originel. Je vous dis ça brutalement, mais vous voyez, il se révèle à nous d'une façon différente. C'est justement ce fameux problème-là. Qu'aurait été la révélation en justice originelle ? Une question intéressante pour essayer de mieux comprendre ce qu'est la grâce chrétienne. Une question qui n'est pas du tout traitée, mais on peut la traiter, et il faut la traiter. Est-ce que c'est le propre de la grâce chrétienne d'avoir la révélation telle que nous l'avons ? Moi, je crois. Je crois que la grâce chrétienne commande toute la conduite de Dieu sur nous. Donc, la familiarité avec Dieu aurait été différente en justice de originelle que pour nous, en justice chrétienne. Il y aurait eu une révélation, du moins. Alors, pour moi, je crois. Je ne peux pas affirmer, parce qu'au fond, c'est une question qui n'est jamais traitée. Et je crois que c'est bon de la traiter. Je crois que, en justice originelle, avant le péché, il n'y avait pas une révélation comme elle existe après. Il y avait, comme pour les anges, il n'y a pas de révélation. Du moins, il y a une révélation pour chaque ange. Chaque ange reçoit de Dieu la révélation par species intime et non pas par des mots. Parce qu'il n'y a pas de le langage. Chez les anges, ils n'existent pas. Ils n'ont pas de langue. Parce que je refuse de dire, moi, je suis très fort dans la langue angélique. Comme elle n'existe pas, c'est ça. On est tous très forts dans la langue angélique. On cherche la langue des animaux, mais pas des anges. Parce que tous les animaux ont une langue assez simple. C'est les bruits de la voix, un volume différent de voix. C'est vrai, les oiseaux chantent différemment le matin et le soir. Et les anges ont un contact avec Dieu par les species infuses. Donc, c'est une révélation purement intérieure. À cause du péché, le corps a pris beaucoup plus d'importance.
dans la question, il était fait état de, des missions des personnes divines.
Oui, oui, justement, on voit ça. C'est que, en Jésus originel, les missions des personnes auraient existé, mais selon un mode différent par species infuse, comme pour les anges, je crois. À cause du péché, l'incarnation va avoir lieu dans la pensée de Dieu. Je ne crois pas que l'incarnation aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu le péché. Certains le soutiennent, mais c'est pas sûr du tout. Je crois que c'est vraiment à cause du péché que l'incarnation a eu lieu. Dieu n'aurait pas fait l'incarnation pour que le monde soit parfait. C'est pour nous sauver, l'incarnation. C'est pour nous sauver, que ne soyons pas tous réduits à l'état de passer notre vie à la fin de notre éternité en compagnie du démon. Jeu de cartes, excusez-moi. Vous comprenez, c'est ça. Il est venu pour nous sauver. Et alors, comme il est venu pour nous sauver par l'incarnation, il a fait une révélation avec notre langage. Dieu s'est mis à parler à Abraham, la langue d'Abraham. Et il a parlé au peuple juif, en araméen et en juif. Et pour une polonaise, il parle polonais. Pour une africaine, il parle africain. Pour un français, il parle français. Et ça, c'est un phénomène, c'est un mystère lié à l'incarnation. Alors là, vous voyez, on n'a pas traité cette question-là. Et je ne l'ai jamais vu traiter. Comment l'incarnation de Jésus commande la révélation telle qu'elle se fait par les prophètes, par des hommes consacrés spécialement à Dieu. Et la révélation se fait par des mots. Alors que s'il n'y avait pas eu de péché, je crois que la révélation se serait faite par species. Et ça serait fait à chacun en particulier. Le péché a augmenté le sens de la communauté. Il l'a augmenté parce que dès que le péché s'est tout de suite communiqué à l'autre. L'autre, dans le cas, était Adam. Pour le péché, Adam est second. Il n'est pas premier, il est l'autre. Puisque Ève a péché avant. Et Adam, parce que Ève lui a demandé de ne pas avoir trop vite. Et il y a là donc une question qui, je crois, est très, très possible, qu'on doit se poser. La révélation telle qu'elle s'est faite par des hommes. Dieu se sert d'un prophète. Il se sert de sa langue pour en faire un langage divin. c'est déjà l'annonce de l'incarnation. Et c'est donc déjà un signe, et c'est même peut-être le premier, de la grâce chrétienne. La grâce chrétienne, c'est que Dieu se met à parler la langue de l'homme. Je n'avais jamais pensé à ça. Hein. Mais il faut y penser. Vous voyez, parce que dans la révélation, si on disait ça, mais beaucoup de choses s'expliqueraient. Et on ne le dit pas. Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'au fond, on considère le régime qu'on est, grâce chrétienne, oui, on n'en pense pas. Au fond, c'est lié au mystère de l'incarnation. C'est parce que Dieu veut parler notre langue, et il parle notre langue pleinement avec Jésus. Il ne l'a pas apprise. Il le sait. Dieu parle notre langue. Avec Adam. Il parle notre langue. Et Dieu parle notre langue parce que un jour, il s'incarnera, où il sera pleinement avec nous. Alors, il a commencé d'être avec nous par la langue. C'est une relation personnelle. La révélation avec quelqu'un où on parle le même langage, il y a une relation personnelle. Et la grâce chrétienne commence par cela. Commence par cela et ça s'ajoute tout de suite dès que Dieu se met à parler notre langue. Dieu se met à parler d'une façon intérieure ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est ce qu'il communique aux que Dieu veut faire des miracles par nous. Donc, c'est une approche encore un peu plus grande avant de venir l'incarnation. Puisque l'homme est fait dans ses relations avec quelqu'un d'autre.
En justice originelle, Dieu a parlé à Adam et Ève avant la faute.
Oui, d'une façon purement intérieure.
Il ne s'agissait pas de la révélation.
Quoi ?
Il ne s'agissait pas de révélation.
Non, il me semble. Il me semble. Je pose un point d'interrogation. Je dis mon opinion, mais je réfléchissais là-dessus. Je crois que s'il y avait la justice première, Dieu aurait conduit chaque homme comme il conduit chaque ange. Et il aurait conduit, non pas par le langage, mais intérieurement. C'est ce qui explique comment il y a une tentation chez certains d'être dirigé directement par Dieu, sans passer par le prêtre, sans passer par le pape, intérieurement, Dieu me parle.
Quel lien faire entre le péché originel et la réponse que Dieu donne, en quelque sorte, à travers sa parole ?
C'est que Dieu veut être avec nous. Le péché a fait séparer, et le péché nous a donné peur de Dieu. transcendance de Dieu, à cause du péché, est insupportable. Alors que la transcendance de Dieu est séductrice, sans le péché. Être l'ami de Dieu, ça fait bien sur ma carte de visite. Mais surtout si ma carte de visite va chez les démons. Moi, je suis l'ami de Dieu. Alors, cela prend un sens très fort pour une révélation intérieure. Donc, il n'y aurait pas eu de révélation comme un livre.
Et on doit dire la même chose pour les sacrements ?
Alors, Dieu aurait révélé intérieurement ou du côté spéculatif ou du côté pratique ?
Il y aurait une autre question et puis on reviendra. Ah, c'est ce que vous aviez commencé de faire la dernière fois. Donc, dans la ligne du Felix Culpa, peut-on chercher à préciser un mode chrétien de la vision béatifique ? Quelle lumière nous donne saint Thomas à ce sujet quand il parle de la science bienheureuse du Christ ? Je cite saint Thomas, « L'âme du Christ, qui se trouve remplie d'une lumière plus abondante, connaît plus parfaitement l'essence divine que les autres bienheureux, bien que tous voient l'essence divine par elle-même. »
Là, Jésus a pris un mode humain, la révélation, et me communique ce mode humain. Il a créé des gens. Mais ce sont des petits prophètes qui m'annonce le chemin de Dieu. Mais ils ont entendu ça et me le communiquent. Ça arrive beaucoup plus qu'on ne pense. Dieu se sert comme moyen de communication des moyens humains. Il a transmis à l'homme. Et il fait ça pour pouvoir nous communiquer d'une façon plus proche.
Alors, une autre question. En regardant la grâce chrétienne à travers les sacrements comme signe sanctifiant l'intelligence pratique et la parole de Dieu comme signe sanctifiant l'intelligence contemplative, ne relativise-t-on pas la cause finale en ce sens que l'intelligence dans les deux regards est dépassée par l'amour ? Le geste du Christ dans le sacrement et sa voix quand il nous enseigne s'unifient pour sanctifier notre appétit spirituel en nous donnant la présence du Fils bien-aimé, en nous faisant vivre en lui, nous tournant vers son Père.
Oui. Oui. Alors, bon, votre question.
La question, c'était, par rapport à la distinction que vous avez faite de la parole et des sacrements,
oui.
Ce sont deux signes qui sanctifient l'intelligence pratique et l'intelligence contemplative.
Tout à fait, oui.
Alors la question, c'était par rapport à l'amour. La finalité est du côté de l'amour.
Oui.
Alors, est-ce qu'on ne relativise pas la cause finale en regardant la grâce chrétienne à travers ces deux signes ?
Non. On s'adapte, on s'organise. On s'oriente naturellement. Pour pouvoir écouter la parole de Dieu, il faut la foi. Seul le croyant peut écouter la parole de Dieu. Donc, C'est une adaptation qui se fait dans un surélèvement de nature. On passe de la nature à la surnature. Et on devient apte à écouter le langage de Dieu. On devient apte à écouter Isaïe ou écouter Jérémie. Ou autrement, si je n'ai pas la foi, j'écouterai Isaïe, j'écouterai tous les prophètes comme je peux écouter des chantres. Mais j'écouterai pas comme un envoyé de Dieu. Je l'écoute comme un envoyé de Dieu par ma foi. C'est ma foi donc qui me permet d'avoir ça. Et par là, je m'approche de Dieu au point de vue de l'intelligence. Et les sacrements, c'est la même chose. Pour celui qui n'a pas la foi, le sacrement de baptême, c'est simplement une douche. On habitue le gosse à être plongé dans l'eau. Ça ne suffit rien. Et donc, toute la signification est surnaturelle. Les gestes, là, prennent un sens surnaturel. Quand vous avez quelqu'un qui ne croit plus à rien du tout, et que vous l'invitez à un baptême, c'est très curieux de l'entendre. Alors, qui sont d'initiation, pour nous, c'est une signification très nette, c'est le lien avec le Jésus. Et qu'est-ce qui donne ce lien avec Jésus alors qu'il fait exactement le même geste? Mais celui qui n'a pas la foi regardera la signification matérielle de ces gestes humains. Je suis chrétien, donc tous ces gestes, comme la parole, tous ces gestes de parole, sont reçus dans la foi et sont reçus comme des moyens que Dieu me donne pour être en contact avec lui. Et je suis en contact avec Dieu par la parole et en contact par le signe.
La parole et les sacrements, comme signes contemplatifs et signes pratiques, nous sont donnés par Dieu. Parce que Dieu veut se faire proche de nous, vous nous avez montré, c'est pour le mystère de l'incarnation. Et comment, du côté de celui qui reçoit, ces deux signes sont aussi pour un amour plus grand?
Oui, toujours. Pour augmenter ma connaissance divine et augmenter mon amour. Et ils sont les signes de ce qu'est la grâce chrétienne. La grâce chrétienne se transmet à travers la parole et à travers des signes. Ce qui prouve que la grâce chrétienne a donc une certaine connaturalité avec la parole et les signes. Ça me fait donc comprendre quelque chose de la grâce chrétienne. La grâce chrétienne me rend capable d'écouter la parole de Dieu. Je suis en connaturalité avec la parole de Dieu. Tout ce que j'acquiers humainement en connaissant la langue de quelqu'un, je peux parler. Ce que je peux recevoir comme ça d'un ami, je le reçois directement de Dieu. Donc, qu'est-ce que la grâce chrétienne, qu'est-ce qui me révèle du caractère de la grâce chrétienne, du fait que Dieu me parle, du fait que Dieu institue des signes dans l'Ancien Testament et que tout ça est repris dans le Nouveau Testament. Dieu continue de me parler et Dieu continue par là, vraiment, quelque chose de la grâce chrétienne m'est révélé. Alors, quel est ce quelque chose ? Dans la parole. Quel est ce quelque chose ? Dans les sacrements. Vous voyez la question que je me pose ? Et pour ça, j'ai posé cette question. Au fond, la révélation par la parole de Dieu et les sacrements par les signes de Dieu n'auraient pas existé en justice originelle. Évidemment, vous pouvez me répondre, vous n'avez pas vécu du tout en justice originelle, alors vous ne pouvez pas m'en parler. Alors qu'est-ce que vous répondriez à ça ? C'est vrai, je n'ai pas vécu en justice originelle et dans la police. Et si c'est vrai, mais je sais d'autre part que tout cela est venu après pour m'annoncer la venue du Christ. Pour pouvoir recevoir le Christ, il fallait parler sa langue. Il fallait comprendre ses gestes. La parole du Christ, le Christ l'invente, le Christ la veut, pour montrer que la grâce m'établit auprès de lui comme un ami. Nous avons la même parole. Vu ce qu'est Dieu, l'être infini, très beau, ce contact que j'ai avec le mystère de Dieu par la parole me montre une infinie intimité. Il se fait comme homme l'ami. Et l'ami, c'est l'intimité. C'est de prendre à soi. Modalité particulière de l'amour d'amitié. La charité est un amour d'amitié. Et dans la révélation de Dieu, j'ai quand même une amitié avec Dieu. Donc que ce soit une amitié avec Dieu, ça m'est révélé. Donc, c'est la grâce chrétienne qui se révèle. Je peux avoir avec Dieu une relation d'amitié. Je crois que ça dénote un cœur à cœur. La parole de Dieu me dévoile que je puis parler dans l'intimité avec Dieu. J'ai ce pouvoir. Et que par la grâce chrétienne, le le péché avait mis Adam dans un état de ne plus pouvoir parler à Dieu, il entend le bruit, il s'en va tout de suite. Le péché, oh, ouais. Dieu avait laissé quand même dans la nature humaine la possibilité de se relever, la possibilité d'être pardonné, la possibilité de recevoir la miséricorde. Donc tout n'était pas détruit. Si tout avait été détruit, Dieu aurait dû recommencer. Considérer notre nature. Dieu a donc laissé dans l'homme la possibilité de rejoindre Dieu. Et où cette possibilité pouvait exister? Avec le péché. Cette possibilité pouvait exister avec le péché dans l'intelligence. Voyez pourquoi l'Église tient si fort à dire que l'intelligence n'est pas touchée par le péché. Si on dit que l'intelligence est touchée par le péché, il n'y avait plus rien dans l'homme qui pouvait atteindre Dieu. Alors, s'il n'y avait plus rien dans l'homme, hein, il fallait que Dieu recommence une création. La création était fichue. Et c'est pour ça que l'Église tient tellement à dire que l'intelligence n'est pas touchée par le péché. Si on dit que l'intelligence est touchée par le péché, on ne voit pas comment l'homme pouvait, par la grâce de Dieu, retrouver une amitié avec Dieu. Il y aurait toujours eu en nous le petit païen.
Est-ce que ça explique l'ordre entre les deux signes de la parole de Dieu et des sacrements?
Oui. Surtout montrer que Dieu, il y a une continuité. Il y a une continuité entre l'œuvre du Créateur et l'œuvre de rédemption. Vous voyez, il y a une logique intérieure de sagesse qui fait comprendre pourquoi l'Église a dit ça. Si mon intelligence était détournée elle-même de sa finalité par le péché, on ne verrait pas comment Dieu puisse reprendre l'homme fondamentalement. Puisque son intelligence et comme sa volonté seraient en opposition vis-à-vis de Dieu. Donc, vous voyez, on voit qu'il semble bien qu'en justice originelle, l'homme aurait été comme les anges, dirigé par Dieu intérieurement. Il me semble. Je l'ai vu dit nulle part, alors je marche tout doucement. Et c'est important de d'y réfléchir pour mieux voir ce qu'est la grâce chrétienne. La grâce chrétienne commence à Dieu parle à Abraham. Évidemment, il n'a pas donné le décret. Dieu parle à Abraham un langage qu'Abraham comprend. Il demande à Abraham de quitter le lieu où il est pour trouver au repos. Alors, la première révélation, donc, la première révélation de la grâce chrétienne, c'est la révélation. Dieu donne la foi. La foi, c'est le début de la grâce chrétienne, pour recevoir la parole de Dieu. Et ça, c'est beau. Donc, vous voyez, donc, tout le mystère de la parole me fait comprendre la grâce chrétienne. Il me semble bien que s'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas eu de révélation externe, visible, sensible. Il y aurait eu tout simplement une communication interne avec Dieu. Par le fait même, il n'y a pas eu besoin de docteur de la loi. Il n'y aurait pas eu besoin de théologien. Le théologien, le docteur de la loi, exprime quelque chose de la grâce chrétienne. Puisqu'il n'y aurait pas eu de révélation. Il n'y aurait pas eu de révélation commune, objective. Toute révélation aurait été objective et subjective, aurait été pour chacun. Chacun n'aurait pas pu faire un cours sur la révélation. Il n'y aurait pas eu besoin, parce que chacun était suffisamment conduit par Dieu. C'est curieux, ça. Et c'est intéressant, le point de vue, la nature de l'homme aurait été la même chose. L'homme aurait progressé par la procréation. Donc ça n'a pas changé. La nature n'aurait pas changé jusqu'à son intelligence incluse. Mais sa volonté a tout de suite été blessée par le péché, puisque volontairement, le péché me fait dire à Dieu que je tourne le dos. Donc la nature humaine aurait été la même. Première grâce chrétienne, c'est la révélation. Je crois qu'on peut dire ça. La première grâce chrétienne, c'est la révélation. Alors, qu'apporte la révélation ? La révélation apporte un enseignement objectif de Dieu. Objectif parce qu'il est pour tous les chrétiens. Il est le même fondamentalement. Donc, il y aurait dans la révélation chrétienne, dans la révélation, aurait tout de suite été chrétienne, ou en vue du Christ. Et c'est vrai, la révélation est tout de suite en vue du Christ, donc elle est chrétienne. Et elle est la même. Alors, elle sera complétée des sacrements. ce qu'il y a de très mystérieux. C'est que la révélation chrétienne va prendre son sommet, son sommet avec Jésus. Ça va rien. Tiens, on va le laisser comme ça. Merci. Elle va avoir son sommet dans le Christ, puisqu'il sera non seulement l'envoyé, mais le Fils. Donc, en lui, la personne est divine. Il y a une nature humaine et une personne divine. Nature-personne. Vous voyez que c'est par la personne que la nature est transformée. Donc, cette révélation va se développer jusqu'à Jésus. Et à Jésus, cette révélation devient totale. Parce que Jésus est la révélation du Père. Avant Jésus, la révélation de Dieu se fait par la parole. Avec Jésus, la révélation se fait avec son être. Jésus est la révélation substantielle du Père. Le Fils révèle le Père. Et c'est le Fils qui révèle le Père. C'est pas le Père qui révèle le Fils. Tandis que dans l'ordre naturel, l'intelligence humaine peut atteindre Dieu et le découvrir comme Père de notre âme. Et ça demeure uniquement la connaissance du Père. La connaissance du Fils est révélée à Marie. Elle est révélée à Marie en lui demandant de pouvoir être la mère de ce Fils. Donc, on voit là toute la force de l'intimité que la grâce réalise. Il faut comprendre que cette révélation a été progressive. C'est sûr que Isaïe reçoit une révélation plus parfaite que Adam. Abraham est le premier dans l'ordre de la révélation. Avant, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est Abraham qui dit Dieu m'a parlé. Alors, d'Abraham à Jésus. Et la révélation a commencé par la parole. Donc la grâce chrétienne implique la foi capable de recevoir la parole de Dieu. La foi. C'est la première chose que je vois dans la grâce chrétienne. Et c'est que Dieu à sanctifier mon intelligence. C'est la première chose que Dieu a fait. Sanctifier mon intelligence, diviniser mon intelligence par la foi. Et le second moment de la foi, le second moment de la grâce, ce sera les sacrements. Diviniser l'intelligence pratique. Et une division, diviniser l'intelligence spéculative par la parole, diviniser l'intelligence pratique par le point de vue des sacrements. Et les sacrements sont faits pour diviniser mon intelligence pratique. Alors, c'est curieux que la grâce chrétienne va augmenter et surnaturaliser la distinction du spéculatif et du pratique.